Vivante Église.
Vivante Église.
Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Qui n'a pas un jour rêvé de tout plaquer, de prendre la route, de marcher tout droit pour sortir de son quotidien, respirer, voyager, chercher. Prendre la route ou le chemin, c'est un peu ce qu'ont fait Elisabeth et Léonard Tando de Marsac il y a 28 ans. Aujourd'hui, ils ont presque fait profession du chemin puisqu'ils se sont installés à Estaing sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle dans l'Aveyron pour y accueillir les pèlerins tout au long de l'année. Rencontre avec des amoureux du chemin qui pourraient bien faire figure de pionniers. Cette émission Vivante Église ce matin, donc deuxième de ce trimestre, deuxième émission en direct depuis le diocèse de Rodez. Nous étions donc la semaine dernière, mardi dernier, avec les Clarisses de Mur de Barrez, donc dans le grand nord de notre région. Voilà, d'ailleurs, quand j'y étais, il faisait assez froid et il y avait beaucoup de brouillard. Même à 10h du matin, le brouillard environnait encore le monastère. Et ce matin, nous sommes avec donc Elisabeth et Léonard Tando de Marsac, hospitalier à Saint-Jacques, parent de 6 enfants. Bonjour.
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 Il y a aussi autour du plateau donc le frère Jean Régis. Vous êtes donc prêtre de l'abbaye de Mondaille. C'est une abbaye donc de prémontré, religieux prémontré, normalement en habit blanc. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, mais on imagine que vous en avez un. Et vous êtes en ce moment au prieuré de Conques. Bonjour.
Ah, bonjour.
Nous sommes aussi avec Denis Louviot, qui est un ancien hospitalier proche de l'hospitalité Saint-Jacques. Vous avez ici été un temps, plusieurs années de bénévolat et puis une année, on en parlera plus tard. Et vous êtes aujourd'hui aumônier de l'hôpital d'Espalion. Bonjour.
Bonjour.
Et notre pèlerin du jour, Louis, vous êtes cuisinier, vous avez 25 ans, vous venez de Narbonne, vous marchez depuis à peu près 10 jours et vous nous parlerez un petit peu de ce que vous vivez. Bonjour.
Bonjour.
Cette émission, je le rappelle pour nos auditeurs, hein, une fois par trimestre, peut-être certains l'auront bien compris et d'autres moins, donc je le redis. Cette émission qui est la plupart du temps enregistrée donc depuis nos studios à Toulouse, et une fois par trimestre, je me rends dans un des diocèses pour essayer de montrer depuis le terrain ce qui se vit dans notre région, dans notre sud-ouest, tous les lieux où la vie chrétienne est, on va dire, battante. Et aujourd'hui, donc, sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Alors, les chemins de Saint-Jacques, grande réalité s'il en est, on ne cesse d'annoncer des chiffres toujours plus importants. Ça sera d'abord peut-être ma première question ou une demande de réaction. J'ai vu qu'en 2018, la fréquentation sur les chemins de Saint-Jacques aurait déjà augmenté de 20%. En 2017, on avait parlé de plus de 300 000 pèlerins qui étaient arrivés à Saint-Jacques. Léonard, au regard de vos longues années ici, le flux des pèlerins ne désemplit pas. C'est en gros aussi votre expérience.
Alors oui, c'est globalement, donc il y a de plus en plus de pèlerins. Quoique en 2017, il y a eu quand même une diminution qui était due sans doute à des facteurs occasionnels, notamment les attentats terroristes qui avaient dissuadé quelques pèlerins étrangers de venir, et puis les élections présidentielles qui avaient retardé l'arrivée des pèlerins sur le chemin.
Voilà, en tout cas, si on regarde, on va dire, ne serait-ce que 10 ou 20, 30 ans en arrière, c'est évidemment un phénomène de société. Père Jean Régiste, vous êtes parmi vos responsabilités, vous coordonnez l'accueil français à Saint-Jacques-de-Compostelle. Qu'est-ce que vous diriez, juste comme quelques mots d'introduction, ça devient de plus en plus connu des Français, sur un peu ce phénomène de société qui est les pèlerins de Saint-Jacques?
Alors le phénomène de société est sûrement très important puisque ils ont dépassé en effet à Saint-Jacques-de-Compostelle les 300 000 pèlerins, beaucoup plus tôt que l'année précédente, vous avez raison. Mais par contre, quand on fait l'accueil à Saint-Jacques-de-Compostelle, les pèlerins francophones sont vraiment en très petit nombre.
Voilà, on dit que c'est 5%, c'est ça et quelques. Hein,
voilà, quelque chose comme ça. Et donc, on se demande, parce que nous, à Conques, nous avons en saison entre 70 et 90 personnes jour, dont quelques-uns sont étrangers. Mais enfin, on se demande la cinquantaine de pèlerins français, plus ceux qui viennent du chemin d'Arles, de Tours ou d'ailleurs, qu'est-ce qu'ils deviennent en cours de route?
Voilà, ils s'évaporent, peut-être, on en parlera. On va quand même demander un petit mot à Louis, même si je vous poserai des questions, on va dire, un peu plus longues. Vous êtes donc notre pèlerin du jour. Pouvez-vous peut-être juste nous dire quand vous êtes parti, et puis peut-être ce qui vous a mis en chemin.
Bah, moi, je suis parti il y a une dizaine de jours du Puy-en-Velay. Et je cherchais vraiment un petit peu une restructuration sur moi-même, à me retrouver un petit peu moi-même. Et c'est vrai que j'avais complètement abandonné certaines choses dans la vie et l'essentiel, comme la foi, etc., que j'ai retrouvé au fur et à mesure du chemin.
Voilà, vous êtes déjà 10 jours et déjà notre pèlerin a retrouvé la foi. Donc on a de la chance aujourd'hui, on a presque un pèlerin exemplaire. On lui redonnera la parole. J'aimerais malgré tout qu'on commence cette émission en racontant un peu votre histoire. Alors nous, on s'était déjà vu. Vous êtes passé lors du Radio Don, vous avez raconté très brièvement votre vie. On s'était vu lors de Ma Ville J'y Crois à l'occasion de l'inauguration de l'antenne qu'on a installée donc sur la cathédrale de Rodez pour presque finir de couvrir l'Aveyron, mais c'est difficile avec toutes les montagnes que vous avez. Et aujourd'hui, chose promise, chose due, on va prendre un peu plus le temps. Il y a 28 ans, Léonard, vous et d'autres amis, si j'ai bien compris, vous étiez trois pères de famille. C'était même le 21 janvier 1990, si je ne me trompe pas. Vous partiez à pied pour Saint-Jacques-de-Compostelle. Vous n'êtes donc pas le seul de votre genre, mais chaque histoire est unique. Chaque histoire est magnifique. Est-ce que vous pourriez nous dire, même question peut-être qu'à Louis, ce qui vous a mis en chemin ?
Alors, ce qui nous a mis en chemin, donc mon beau-frère, un ami et moi-même, vers Saint-Jacques, c'est, on pourrait dire, déjà, nous avions pris l'habitude, puisque nous habitions à Orléans, tous les ans, de faire une petite marche qui est devenue vite pèlerinage, Orléans-Notre-Dame de Cléry, pour se retrouver entre amis. Des amis dispersés dans toute la France et même à l'étranger. Et donc, on se retrouvait à date fixe, aux alentours du 21 janvier, voilà, pour faire cette petite marche. Voilà. Et finalement, un de nos amis nous a dit « Cette année, je ne vais pas faire que cette petite marche. Je compte continuer jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle. » Alors, ça nous a interpellés, mon beau-frère et moi-même, et quelques semaines après, on décidait de l'accompagner.
Donc vous étiez médecin, hein, c'est ça ?
Médecin à Orléans, médecin à Orléans, généraliste.
Voilà.
À Orléans.
Vous aviez déjà, j'imagine, femme et enfant.
Oui.
Voilà, donc vous avez quoi ? Vous avez fermé le cabinet, puis vous êtes parti, vous avez marché combien de temps ?
Exactement, donc on a fermé le cabinet, puis j'avais pris quand même la précaution, d'inscrire sur un carnet tous mes malades en difficulté quand je suis parti, pour qu'on puisse prier pour eux tous les jours jusqu'à l'arrivée à Saint-Jacques. Et donc, le pèlerinage a duré environ 2 mois et demi.
Est-ce qu'on a toujours un peu la nostalgie de la première fois où l'on chausse ses chaussures et l'on marche vers Saint-Jacques-de-Compostelle ? Est-ce que parfois vous avez encore des souvenirs qui vous reviennent, Léonard, ou la nostalgie de cette première fois ?
Des souvenirs, oui, de temps en temps, mais une nostalgie, non, je ne dirais pas une nostalgie, puisque ce pèlerinage n'a pas été un fait isolé dans notre vie de famille et dans notre vie de chrétien, mais ça a été un nouveau départ vers une réelle vocation d'accueil des pèlerins.
Alors, on va y venir. Elisabeth, peut-être, est-ce que vous pouvez nous dire quand votre mari, Léonard, est revenu ? Donc, c'était donc en 1990, donc après quelques semaines de marche. Est-ce que quand il est rentré, vous vous êtes dit, tiens, il s'est passé quelque chose, je ne reconnais pas Léonard. Est-ce qu'il y avait quelque chose qui avait changé chez lui ?
Alors, je m'en suis aperçue parce que quand nous sommes allés à Saint-Jacques, en fait, quand Léonard est arrivé à Saint-Jacques avec ses amis, on avait convenu qu'avec les enfants, on irait les rejoindre à Saint-Jacques pour passer un temps ensemble à leur arrivée. Donc ça, c'est déjà assez exceptionnel comme pèlerinage familial, avec donc les 4 enfants, et puis les enfants aussi des autres familles. Donc ça trouvait un petit groupe là-bas, et on est arrivé donc pour Pâques, et pour la semaine sainte et Pâques. Voilà. Et là, oui, j'ai vraiment vu quelque chose à travers son regard. Je crois que les pèlerins, quand ils marchent, ils voient de plus en plus loin. L'horizon se grandit. Et en fait, je crois que ça change le regard. Et c'est ça qui m'a plus frappée. C'est ce regard qui allait très loin.
Vous voyez, Léonard, elle n'avait pas surtout retenu que vous aviez maigri. Je voyais me faire signe que c'était une remarque importante. Alors, après, nombreuses sont les personnes qui aujourd'hui font le chemin de Saint-Jacques. Mais vous, il s'est passé quelque chose pour votre famille. C'est que de retour, vous avez senti, en tout cas c'est comme ça que vous en parlez, vous êtes senti appelé par Dieu à franchir un pas supplémentaire et à venir sur les chemins de Saint-Jacques en famille, donc à tout lâcher, tout plaquer, comme je le disais la semaine dernière, pour trouver un lieu d'accueil. Racontez-nous un peu cet appel pressant, Léonard.
Oui, très particulier, parce qu'au début, je ne l'avais pas du tout identifié comme un appel divin. C'est venu progressivement. Ça se présentait sous une forme un peu curieuse pour moi à l'époque, c'est-à-dire d'avoir, comme j'appelais ça à l'époque, l'idée qui surgissait en moi dans n'importe quelle circonstance, les plus étonnantes que ça puisse être, vivre en communauté pour accueillir les pèlerins de Saint-Jacques.
Alors vous me disiez aussi qu'à chaque fois, ça vous mettait dans une grande joie d'imaginer ça.
Exactement. J'avais une sorte de bouffée de joie très intense que je ne connaissais pas de cette façon-là. À chaque fois que cette idée surgissait en moi, c'est-à-dire je pouvais être en train de prendre la tension artérielle d'un malade et tout d'un coup, accueillir les pèlerins en communauté sur le chemin de Saint-Jacques et une bouffée de joie m'envahissait.
Vous n'aviez pas mis un chapeau de Saint-Jacques quand même dans votre cabinet médical, non ?
Non, pas oui, jusque-là. Bon. Mais finalement, j'étais assez encombré parce que ces idées me survenaient plusieurs fois par jour et ça a duré pendant des mois, à tel point que j'avais entrepris d'essayer de trouver des trucs pour éloigner ce surgissement. Et comme avec mon beau-frère et mon ami, on avait fait le chemin en priant pendant 2 mois et demi, nous avions décidé, à l'issue du pèlerinage, de se retrouver dans un monastère. Dans un monastère homme, effectivement, il y avait des moines. Et donc, j'avais eu l'occasion de me confier à un moine et je lui expliquais ce qui m'arrivait. Et donc, mois après mois, je lui racontais à peu près la même chose et il ne me répondait jamais, sauf par un sourire. Et au bout de quelques mois, je ne saurais plus dire, peut-être 6 mois, 7 mois, il m'a dit « Léonard, j'ai beaucoup prié, effectivement, il avait eu le temps de prier. J'en ai parlé à mon père abbé, j'ai demandé conseil et je crois pouvoir te dire que c'est un appel familial à arrêter ton métier, vendre tes biens et accueillir les pèlerins sur le chemin de Saint-Jacques. »
Alors, Elisabeth, pouvez-vous nous dire comment vous avez accompagné votre mari dans ce choix ? On imagine que ça n'est pas rien de sauter un grand pas. Vous êtes arrivé ici donc avec 5 enfants. Entre-temps, vous aviez eu le temps d'en nommer un, Jacques. Mais il y a un Emmanuel aussi qui est né ici. Peut-être ma question plus précisément, ça sera comment la mère de famille que vous êtes a réussi un peu à lâcher prise sur ce qui pourrait paraître un peu fou ?
Alors, ce qui est pour une maman très important, c'est effectivement le moment où on est enceinte. Alors, j'étais enceinte de Jacques au moment où Léonard faisait son, pendant que Léonard faisait son pèlerinage. Et donc, quand on s'est rendu à Saint-Jacques, ce petit était in utero. Donc, il était là, à Saint-Jacques, mais il allait naître quelques mois plus tard. Or, au retour du pèlerinage, on a préparé sa naissance. Et évidemment, pour nous, c'était assez exceptionnel puisqu'il est né le 25 juillet. Vous savez bien que Saint-Jacques, la fête de Saint-Jacques est le 25 juillet. Donc ce petit bébé qui est arrivé dans la famille le 25 juillet, pour moi, c'était extrêmement important de comprendre qu'il y avait un signe là de Saint-Jacques qui nous disait ben, « Voilà, Saint-Jacques, il va nous accompagner, en fait, et s'est introduit, on pourrait dire, dans cette intimité familiale ce jour-là. » Et donc depuis ce jour, j'ai vraiment... moi, en tant que maman, pensais qu'effectivement, il y avait quelque chose qui était en train de se dessiner par rapport au pèlerinage de Saint-Jacques.
Alors, pour finir, avant qu'on fasse une première pause, donc vous êtes installé donc, depuis maintenant 25 ans, hein, c'est bien ça, donc sur un peu plus, Léonard, allez-y.
Oui, 26 ans.
Ouais. 26 ans, donc ici à Estin, donc ça ne s'est pas fait d'un coup de baguette magique, hein, vous avez été accompagné, vous êtes présenté donc à l'évêque de Rodez, qui n'était pas à l'époque Monseigneur Fonlu. Toujours est-il que vous allez finir par atterrir ici, dans cette maison, où sont accueillis toute l'année, ou presque, donc des pèlerins. Comment vous nous présenteriez, peut-être rapidement, cette hospitalité Saint-Jacques, que vous ne portez pas seul, hein, il y a comme une communauté d'hospitaliers aussi ici, qui vous accompagnent dans cette aventure. Combien de personnes, on va dire, passent par ici chaque année, et combien travaillent à les accueillir ? Léonard.
Voilà, alors donc, oui, nous ne sommes pas un couple qui accueillons les pèlerins, même si on est le pivot de l'hospitalité Saint-Jacques. Nous avons beaucoup d'hospitaliers, des bénévoles qui viennent passer 15 jours pour nous aider à l'accueil pendant toute la saison. Nous avons eu même des hospitaliers permanents, des communautaires qui, pendant plusieurs années, nous ont accompagnés dans cette pastorale de l'accueil. Voilà. Et puis, le nombre de pèlerins reçus varie un petit peu. Là, on a un petit peu descendu le nombre pour des raisons de fatigue et du fait qu'on est moins nombreux en permanence.
Ça fait combien de personnes, grosso modo, quand même, par an ?
Or, ben, c'est de l'ordre de plus ou moins 2000.
Voilà, ce qui est quand même pas rien quand on les accueille.
Et puis aussi, de moins en moins, mais aussi ce que nous appelons les frères de la route, c'est-à-dire des personnes qui sont déracinées et qui finalement ne dorment jamais de nuit au même endroit, voilà, et cherchent à avoir un hébergement au moins pour une nuit et pouvoir se refaire.
On va faire une première pause musicale et puis on va vous retrouver pour parler davantage de votre aventure ici, de la manière dont vous accueillez, voilà, puisque c'est un accueil chrétien, hein, donativo aussi même, on expliquera ce que ça veut dire. On racontera quelques-unes des belles histoires, on en demandera un peu plus à Louis aussi sur le motif de cette aventure. Bref, plein de choses passionnantes à voir après cette première pause musicale.
Présence. Vivante Église, Emmanuel Pella.
Cette émission Vivante Église ce matin, donc depuis le diocèse de Rodez, donc l'accueil des pèlerins de Saint-Jacques à Estaing. Je vous rappelle, si vous nous prenez en cours de route, l'une de nos émissions trimestrielles où l'on se rend dans un des diocèses de notre région du Sud-Ouest. Donc cette semaine, comme la semaine dernière, c'est donc le diocèse de Rodez. Et là, nous sommes donc à Estaing, sur les contreforts de l'Aubrac, avec donc Léonard et Elisabeth Tandeau de Marsac, qui sont ici donc hospitaliers pour l'hospitalité Saint-Jacques à Estaing, parents de 6 enfants. Autour du plateau, il y a aussi le père Jean-Régis, religieux prémontré du prieuré de Conques, autre grande étape donc sur les chemins de Saint-Jacques. Il est par ailleurs, avec Léonard, délégué diocésain pour la pastorale des chemins de Saint-Jacques pour le diocèse de Rodez. Et nous sommes aussi avec Denis Louviot, ancien hospitalier, aumônier d'hôpital ici à Espalion, et Louis, qui est notre pèlerin du jour, pèlerin providentiel, 25 ans, qui vient de Narbonne et qui est cuisinier, parti il y a 10 jours. Dans cette deuxième partie, j'aimerais qu'on creuse un peu plus, qu'on essaye d'entrevoir en fait ce qui se joue sur le chemin. On va peut-être commencer avec vous, Louis. J'aimerais que vous nous disiez un mot de l'accueil. Vous êtes parti donc il y a maintenant 10 jours. Que diriez-vous de l'accueil ? Vous avez peut-être choisi aussi d'aller dans des lieux d'accueil chrétiens au fur et à mesure du chemin. Est-ce que vous sentez un accueil particulier ? Et si oui, pourquoi ?
Alors oui, parce qu'à propos de ça, j'ai une anecdote. Parce que quand je suis arrivé de Nazbinal sur Saint-Chély-d'Aubrac, j'avais nulle part où dormir. Donc sur le coup, j'avais commencé à construire un bivouac avec un feu de camp, etc. Et j'ai été chassé par deux personnes de cet endroit parce que je me trouvais trop près d'une propriété agricole. Donc je suis retourné au village et là, une personne m'a accueilli alors que j'avais nulle part où dormir. Et c'était un monsieur qui était ferronnier sur Saint-Chély-d'Aubrac et qui avait un gîte, mais qui était en construction actuellement, donc qui était fermé. Et il m'a vu tout seul et il m'a donc déplié un lit sur le moment, et j'ai pu dormir au chaud avec tout le confort nécessaire pour prendre la route le lendemain. Donc je pense vraiment qu'il y a un état d'esprit d'accueil qui se fait quand les gens voient d'autres en détresse, qui ne se fait pas ailleurs, qu'on ne retrouve pas dans les villes.
Est-ce que vous diriez que vous cherchez aussi des lieux d'accueil chrétiens ? Et si oui, pourquoi ? Est-ce que vous cherchez des lieux d'accueil qui soient explicitement chrétiens ?
Alors, je cherche pas forcément des lieux d'accueil chrétien, mais j'aime bien voir un petit peu toutes les personnes que je rencontre. Et c'est vrai que moi, à chaque fois, quand on me pose la question, si je prie sur le chemin, et ben c'est vraiment là que j'ai recommencé à prier.
Elisabeth et Léonard, il y a sur votre site internet, vous faites référence à une grande figure biblique qui est Abraham, et à un épisode dans l'Ancien Testament où notre père dans la foi accueille donc sous sa tente trois pèlerins énigmatiques. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi, nous rappeler un peu ce passage de la Bible et pourquoi est-ce qu'il vous habite autant ?
Alors c'est effectivement, on dit l'icône de l'hospitalité d'Abraham, qui est devenue l'icône de la Sainte Trinité, de Roubieff, mais nous on dit l'hospitalité d'Abraham, qui raconte donc l'hospitalité qu'a fait Abraham lorsque les trois voyageurs sont venus vers lui, et puis il les attendait avant même qu'ils demandent l'hospitalité. Et c'est devenu vraiment l'icône de la grâce de l'hospitalité, c'est-à-dire quand on accueille le pèlerin, le voyageur, l'étranger, on accueille Dieu lui-même, hein, puisque Abraham a accueilli Dieu lui-même à travers ses trois voyageurs, et il a accueilli aussi donc cette promesse que Dieu lui faisait d'avoir une descendance. Donc il a accueilli Dieu lui-même.
On imagine que, enfin, c'est facile à dire, mais quand il y en a des milliers qui passent chaque année, ça doit être un sacré exercice du cœur que d'arriver en fait tous les jours à accueillir. Oui. Avec le cœur ouvert, à votre table.
C'est une disposition, effectivement, qui s'apprend, qui s'expérimente. Ça ne vient pas tout de suite. Mais en fait, du coup, ça devient pour nous un cadeau que d'accueillir des pèlerins, puisque en chacun, on reconnaît Dieu, on reconnaît le Christ qui est accueilli. Donc, c'est ça que nous demande de faire cette hospitalité auprès de tous ces pèlerins.
Alors j'ai cru comprendre que c'était quand même plus ou moins facile, hein. J'ai un petit passage facétieux sur votre site internet qui dit, je ne sais pas si c'est de vous Léonard ou Elisabeth, mais qu'il est dit que pour certains pèlerins c'est plus ou moins facile de reconnaître le Christ.
Exactement.
Et que pour d'autres c'est un peu plus compliqué. Je voulais vous donner la parole aussi un petit peu, Denis Louviot. Donc vous avez été hospitalier ici pendant des années, c'est-à-dire que vous avez donc fait des temps de bénévolat pour aider. Oui. Et vous avez entre autres passé une année Sabbatique, oui. Qu'est-ce que vous diriez de cette année avec Léonard et Elisabeth à accueillir, puis accueillir, puis accueillir? Je ne sais pas, est-ce que ça a petit à petit fait changer quelque chose dans votre cœur?
Oui, en fait, c'est une façon nouvelle de continuer le pèlerinage vers Saint-Jacques. Ici, j'ai appris une forme de vie communautaire qui est très dépouillée, très simple, où on se base sur l'essentiel. L'essentiel, c'est l'accueil. L'essentiel, ce sont la préparation des rapports. L'essentiel, c'est la prière du matin et du soir. Et puis, ce sont des travaux. On fait la vaisselle, on cultive le jardin. Donc, ça m'a appris la simplicité d'une vie et dont parle d'ailleurs maintenant le pape François.
Voilà, vous avez souvenir de moments où les pèlerins vous sortaient un peu par les yeux, ou ça vous a demandé un effort du cœur de continuer à les accueillir?
Effectivement, il y a des... Quand il y a, en été par exemple, qu'il y a 16 pèlerins qui arrivent, et qui arrivent parfois en même temps, on se sent un peu débordé, ou quand on reçoit les mêmes questions, on essaye de donner des réponses qui ne soient pas les mêmes ou qui viennent du cœur. Mais parfois, oui, il y a la fatigue. À la fin de la journée, heureusement, on passe à la chapelle et à la prière. Les pèlerins font silence, nous aussi. Et on se retrouve tout à la fin de la prière devant le Saint-Sacrement qui est exposé. Et puis, on repart le lendemain matin, neuf.
Est-ce que vous diriez que ça vous a un peu préparé à votre travail d'aumônier d'hôpital, en fait?
Oui,
de...
bien sûr. Tout
ce... Parce que c'est aussi un travail d'écoute, en fait. Hein, et de...
Oui, c'est un travail de présence, d'écoute, que j'ai aussi appris avec les pèlerins, à l'Hospitalité Saint-Jacques. Et puis, ça m'a préparé, effectivement, à essayer de m'effacer. L'écoute, c'est de faire le vide, de se vider de soi-même pour laisser la place à l'autre. Donc oui, c'était un long apprentissage, non seulement en étant hospitalier, mais aussi quand j'ai fait partie de la communauté pendant un an. L'apprentissage de l'écoute, c'est jour après jour, énervement, joie, etc.
Père Jean-Régis, donc je le disais au début de l'émission, je le rappelle, vous coordonnez donc l'accueil français donc à Saint-Jacques-de-Compostelle, qui existe depuis pas très longtemps, si je ne me trompe pas, donc du 15 mai au 31 octobre, donc des équipes de laïcs se relaient, avec en général toujours un prêtre. Qu'est-ce que vous pourriez dire sur les pèlerins? On entend beaucoup de choses, en fait, on lit parfois des sondages un peu contradictoires, où on va dire que la majorité marcherait pour des raisons non religieuses, mais petit à petit, au fur et à mesure, une recherche se ferait jour. Et en tout cas, pour ceux qui arrivent à Saint-Jacques, qu'est-ce qui ressort de leurs attentes?
Bah, il ressort que chaque sujet est unique, et que chaque personne doit être écoutée sans a priori et sans dire... Vous savez, quelquefois, j'avais entendu les camionneurs, si c'est un camion bâché ou un camion qui n'est pas bâché, alors on n'est pas camionneur. Voilà. Eh bien, chaque personne est pèlerin, mais il ne faut surtout pas la rentrer dans une catégorie, quoi. Il faut la prendre comme quelqu'un de tout à fait neuf. Et dans l'écoute que l'on peut avoir, aussi bien dans les partages avec la communauté d'accueil des accueillants et le prêtre qui n'est pas toujours là, ou bien en accueil individuel, il faut vraiment écouter pour la personne qui elle est, qui est ce qu'elle veut dire, et puis bien sûr pour nous chrétiens, qu'est-ce que l'Esprit veut nous dire par cette personne-là.
Voilà. Est-ce que c'est un enjeu aussi pour l'Église? J'ai cru comprendre on en avait parlé avec Léonard. Maintenant, il y a même un évêque référent, pour la partie française des chemins. Voilà, vous avez peut-être fait un peu figure de pionnier, hein, à être en couple comme ça sur les chemins de Saint-Jacques. Quel mouvement l'Église essaye d'avoir pour, entre cette délicatesse, d'essayer d'être présent, d'être à l'écoute, et en même temps, quand même, qu'il y ait des lieux d'accueil qui soient chrétiens, comme ici, avec des temps de prière qui sont proposés? Comment est-ce que l'Église s'y prend un petit peu pour essayer de se rendre présent à cette réalité?
Eh bien, l'Église, là, elle a été relancée par des chrétiens, entre autres Elisabeth et Léonard, au fur et à mesure, et ce n'est qu'après, je veux dire, que la hiérarchie en a pris conscience. Et moi, je souffrais depuis plus de 15 ans, pratiquement, de l'absence d'accueil à Saint-Jacques-de-Compostelle, parce que une fois un pèlerin était revenu de là-bas, Et il m'avait dit, vous savez, je voulais rencontrer un prêtre pour parler un peu de mon chemin. Et alors il s'adresse à un chanoine de la cathédrale qui, il savait qu'il parlait français. Il lui dit, je voudrais reparler un peu de mon chemin, puis célébrer la réconciliation. Alors le chanoine lui dit, écoutez, demain, venez à 9h moins 25. Et puis, il a dit très volontiers. À 8h30, il était là déjà, bien sûr. Le chanoine arrive à 9h moins 25 et lui dit, écoutez, je vous écoute, mais soyez assez bref parce que j'ai une messe à 9h moins le quart. Et le pèlerin ne lui en voulait pas du tout parce que le pauvre chanoine, il est très occupé, etc. Et alors ça m'a travaillé depuis longtemps, disant que, alors que les Allemands ont lancé un accueil à Saint-Jacques-de-Compostelle depuis plus de 15 ans, et nous arrivions très difficilement à faire comprendre à la hiérarchie, j'allais dire, et qu'elle s'organise avec la hiérarchie espagnole, pour ce temps très important de l'arrivée avant la suite qui pourrait être faite.
Alors vous avez écrit, en tout cas, vous l'avez écrit à plusieurs, semble-t-il, puisque Denis Louvio, vous avez aidé Léonard et Elisabeth à coucher ce livre, Le temps de Compostelle, un chemin de signes et de traces, paru aux éditions Saint-Léger. J'aimerais juste que vous nous sortiez deux, trois histoires piquées de ce livre, qui porte bien son nom, Chemin de signes et de traces. Ce ne sont donc que des histoires vraies, il faut le dire, hein, qui vous ont donc été rapportées par des pèlerins. Souvent, la manière dont Dieu se rendrait présent sur les chemins de Saint-Jacques serait assez pratique ou providentielle. Est-ce que vous pourriez prendre quelques exemples ? Vous en aviez un, Léonard, qui vous concerne. Commencez par cette histoire.
Oui, alors nous voilà, les trois pèlerins, mon beau-frère, mon ami et moi-même, après 2 mois et demi de marche.
Donc je le redis pour ceux qui n'étaient pas là au début de l'émission, vous avez commencé par partir il y a 26 ans, donc sur les chemins de Saint-Jacques à Troyes.
Voilà, exactement. Et donc c'était la fin du pèlerinage quasiment, c'était la dernière étape. Dernière étape avec un temps calamiteux, brouillard, pluie, ciel bas, pas de lumière. Voilà, et nous avancions péniblement pour faire cette dernière étape. Et puis, à chaque virage, après chaque montée, on se disait, tiens, on va apercevoir Saint-Jacques, ça y est. Mais non, c'était toujours pas Saint-Jacques. Et on recommence et on continue, et toujours pas Saint-Jacques. Et donc, le découragement nous prend. Il nous prend, au bout de 2 mois et demi de marche, c'est quand même assez étonnant. Et on arrive en haut d'une montée, et puis là, on en a assez, et on s'assoit sur nos sacs, puis on s'aperçoit qu'on était sur le lieu d'une décharge municipale. Voilà, toujours le temps, toujours le même temps. Et puis une camionnette arrive avec les feux allumés, les essuie-glaces en action, s'arrête juste devant nous trois. Oh, on se dit, voilà, quelqu'un qui vient décharger quelques...
Dans un lieu relativement improbable, du coup, quand même.
C'est... Oui, quand même assez... Oui, c'était pas un haut lieu. Le conducteur se penche vers la personne qui était à son côté et puis sort de la voiture et nous donne, sans un bonjour, sans un signe, sans rien, à chacun, nous distribue une petite canette de bière, une San Miguel, une Saint-Michel, une bière espagnole, et s'en va sans rien nous dire, referme la porte de la camionnette, fait demi-tour, et nous n'en aurons jamais aucune manifestation plus tard.
Alors en quoi est-ce un signe pour vous ? Parce que quelqu'un n'ayant pas la foi pourrait dire il voit passer tellement de pèlerins qu'ils se sont dit bon, ils sont découragés, donnent leur 3 bières et puis avance.
Je ne sais pas si c'est un signe, peu importe, mais c'est tout à fait quand même extraordinaire d'arriver dans un état comme ça au bout de 2 mois et demi de marche alors qu'on touche au but et on n'arrive jamais à toucher le but, un état de découragement, et dans cet état de découragement arrive tout d'un coup, providentiellement, une personne, comme on dit maintenant, une rencontre improbable, c'est ce qu'on dit toujours, voilà, et nous donne une Saint-Michel pour nous aider à finir le pèlerinage dans la joie.
Denis Louvio, vous avez un autre exemple qui ne vous concerne pas, qui concerne un pèlerin qui était une personne, on va dire, sans beaucoup de ressources et qui, à Saint-Jean-Pied-de-Port, s'est vu offrir de manière aussi assez... étonnante, une paire de chaussures. Racontez-nous brièvement cette histoire.
Oui, c'est Gustave, donc c'est le nom avec lequel on l'a baptisé. C'était un personnage qui avait des problèmes psychologiques, qui était sous tutelle, qui faisait pour arrondir ses fins de mois la Manche à la gare de Lyon. Et un jour, à la gare de Lyon, il voit passer une étrange personne qui avait un gros sac à dos, une canne, un grand bâton qui était sculpté. Donc cette personne lui donne 2 euros. Il lui demande, mais d'où est-ce que vous venez comme ça? Pourquoi vous avez ce bâton? Et plutôt que de donner une longue explication, le pèlerin, c'était un pèlerin de Saint-Jacques, bien sûr, fouille dans son sac, sort un guide, et puis il lui tend, c'est un guide pour le chemin de Saint-Jacques. Il lui dit, tenez, vous n'avez qu'à lire, après tout, la Manche, vous pouvez aussi la faire sur le chemin. Et il est parti.
Donc il a marché jusqu'à arriver à Saint-Jean-Pied-de-Port, mais il n'avait plus de chaussures.
Il est arrivé à Saint-Jean-Pied-de-Port, donc il n'avait pas beaucoup de moyens. Donc arrivé à Saint-Jean-Pied-de-Port, ses chaussures étaient explosées. Il était dégoûté, il n'avait plus d'argent, parce qu'il avait tout dépensé. Il n'avait pas beaucoup de moyens. Et donc assis sur les marches, un peu avant Saint-Jean-Pied-de-Port, Saint-Jean-le-Vieux, assis sur les marches de l'église, ben, il se disait, bon, c'est fichu, j'ai pas envie de faire la Manche pendant des siècles pour avoir me payer une paire de chaussures qui valent très cher. Il avait décidé de retourner quoi, avec une paire de pantoufles et puis sort d'un gîte ou même d'une maison d'hôte un homme bien habillé qui se dirige vers sa BMW et qui ouvre le coffre et jette un petit sac à l'intérieur et puis qui remarque le personnage assez drôle, assez bizarre. C'était l'homme grand, maigre, une barbe décharnée, une barbe à la Don Quichotte. Et puis, il y a une moquerie qui lui vient à la bouche, quoi. Mais quand même, il est touché par la pauvreté. Il voit les chaussures au bas des marches que Gustave avait abandonnées. Et puis, l'homme à la BMW se reprend, jette un coup d'œil dans son coffre. Il ressort un sac de plastique. Il va voir Gustave, lui dit, tenez, rendez-moi service, prenez donc ces chaussures, elles sont toutes neuves, elles ne me serviront jamais. Gustave essaye les chaussures, elles sont toutes neuves, elles lui vont bien, et il peut continuer son chemin, traverser les Pyrénées et arriver à Santiago.
Alors des histoires comme ça, on en trouve beaucoup donc, dans ce livre, Le Temps de Compostelle. J'ai souvenir la première fois que je vous avais interviewé donc, à Rodez, dans le cadre de Ma Ville, J'y crois, vous avez parlé d'un pèlerin aussi qui, de manière assez étonnante, avait retrouvé son bâton alors qu'il l'avait, il pensait l'avoir oublié à l'étape précédente. Il y a une autre histoire que je m'étais notée, c'est un pèlerin, une pèlerine suisse qui se retrouve sur le plateau de l'Aubrac complètement découragée et qui, au milieu de nulle part, raconte-t-elle, voit un homme passer habillé presque en veston et complet et lui indiquant le chemin. Comment faut-il comprendre un peu toutes ces circonstances, on va dire, dues au hasard ou à la providence, que l'on soit croyant ou pas. Père Jean-Régis, est-ce que ceux qui croient ont l'habitude de dire qu'il y a vraiment une présence sur ce chemin, comment le prêtre que vous êtes, le religieux que vous êtes, pourrait essayer de faire comprendre cela à ceux qui ne croient pas, par exemple?
Je ne veux pas faire comprendre à ceux qui ne croient pas, et je ne crois pas qu'il n'y a que ceux qui croient qui voient cela. Car justement, ce qui m'a étonné, le cas précis que vous me dites de cette pèlerine suisse qui était thérapeute, je m'en souviens très très bien, elle avait ce que j'appelle une nécessité intérieure de prendre le chemin, et elle avait dit à son mari, qui riait parce qu'elle n'aime pas marcher, et elle avait mal au dos. Et un jour, elle se décide, et donc finalement, elle part, et puis elle prend ce chemin, et il arrive ce que vous dites. Et j'ai entendu plusieurs cas comme ça, si vous
donc,
voulez.
Ce que vous dites, donc, c'est qu'elle voit un personnage mystérieux qui a probablement n'a rien à faire sur le plateau de l'Aubrac.
Surtout là c'est, elle était tombée dans un trou de neige, si vous voulez, et elle avait perdu avec le vent son plan, oui, était désespérée. Puis voilà, arrive quelqu'un qui n'était pas du tout habillé comme pour la neige, etc., qui lui dit, ma pauvre petite dame, vous êtes perdue là, oui, bah, suivez-moi. Et puis elle le remet en route, et puis elle continue sa route, et puis elle fait pas attention qu'il n'était plus là, quoi, voilà.
Et c'est-à-dire qu'il y a des anges parfois sur les chemins de Saint-Jacques, et on dit que les anges prennent l'apparence des hommes. Est-ce que vous n'iriez pas jusque-là?
Ouais, je ne veux pas aller jusque-là, mais j'ai entendu beaucoup beaucoup de cas, si vous voulez, inhabituels. J'ai aussi eu le coup du bâton dont vous parliez. Je descends à l'hôtellerie, quelqu'un revenait chercher son bâton, et il dit, j'étais parti déjà, j'avais déjà fait 500 mètres, j'ai oublié mon bâton, et j'étais en blanc à ce moment-là. Et il m'a dit, mais vous êtes un des frères? J'ai dit, oui. Mais justement, je voulais vous parler. Et du coup, on a parlé longuement, et il est revenu, et chaque fois, il se présentait comme l'homme qui avait oublié son bâton.
Avant qu'on fasse une deuxième pause, Louis, est-ce que vous pourriez nous dire, est-ce que vous espérez quelque part, en vous étant mis en route comme ça, dans une période, semble-t-il, un peu clé de votre vie, hein, c'est ce que vous disiez au début de l'émission, c'est-à-dire vous voulez commencer une nouvelle vie ou rompre avec une manière de vivre, est-ce que vous espérez rencontrer Dieu sur le chemin, ou est-ce que c'est aller un peu loin ?
J'espère pas rencontrer Dieu lui-même sur le chemin, mais j'espère le réintroduire en moi, que je l'avais mis de côté pendant trop longtemps, dû aux activités, souvent avec les études, avec les, voilà, on fait des soirées entre amis, etc. Et on met souvent la religion de côté, même si on a reçu une éducation chrétienne, etc. On va plus à la messe le dimanche, on oublie totalement de prier. Et on met ça complètement de côté. Et c'est vrai que sur le chemin, avant de partir, je suis allé voir le prêtre de la chapelle où je vais à la messe. Et il m'a donné un chapelet. Sans me dire, tiens, tu prieras sur le chemin ou quoi. Il m'a dit, ça peut peut-être te servir. Et depuis que j'ai repris le chemin, tous les jours, je récite entre 2 à 4 chapelets par jour. Et je me suis remis inconsciemment à prier. Et même des fois, je n'avais pas le chapelet en main. Et je me rends compte que je récite des prières tout seul comme ça.
Voilà, on va faire une deuxième pause et puis on va vous retrouver peut-être pour finir de parler du chemin. Le chemin comme un chemin de guérison, c'était le titre d'une rencontre récemment à Toulouse. Je vois que le temps a filé, donc on fera peut-être plus court. Et puis j'aimerais qu'on finisse l'émission quand même en donnant quelques conseils, parce que les Français ne sont pas si nombreux que cela sur le chemin. Et peut-être certains auditeurs pourraient-ils avoir la bonne idée de se mettre en route sur les chemins de Compostelle. Pour ceux qui nous quitteraient maintenant, je vous rappelle le titre de l'ouvrage que citait à plusieurs reprises, « Le temps de Compostelle, un chemin de signes et de traces » paru aux éditions Saint-Léger.
Présence.
Emmanuel Pella.
Cette émission Vivante Église, donc ce matin, pour rappel, nous sommes donc depuis le diocèse de Rodez à Estaing, chez Léonard et Elisabeth Tandeau de Marsac, ou plutôt à l'hospitalité Saint-Jacques, ce couple responsable donc de cette hospitalité qui s'est installée ici il y a 25 ans pour accueillir donc les pèlerins, où passent ici plusieurs centaines de pèlerins, 2000 je crois vous disiez, Léonard, un peu plus tôt dans l'émission. Cette émission, on a été gourmand sur les deux premières parties, j'aimerais quand même qu'on finisse en essayant de donner peut-être quelques clés à nos auditeurs. Pour ceux qui voudraient partir et pour ceux, et on va commencer par eux, pour ceux qui ne peuvent pas partir pour des raisons de santé ou parce qu'ils sont très pris. Pardon, je rappelle que nous sommes autour du plateau. Il y a donc Léonard et Elisabeth qui sont responsables de cette hospitalité. Le frère Jean-Régis qui est religieux prémontré au prieuré de Conques, autre étape des chemins de Saint-Jacques dans l'Aveyron. Denis Louviot, ancien hospitalier, et Louis qui est donc le pèlerin du jour. Léonard, vous aviez une anecdote une fois, donc vous étiez amené, et vous racontez ça sur votre site internet, vous avez été amené vous deviez donner un témoignage ou un topo donc sur la manière d'accueillir, et vous avez rencontré providentiellement un homme qui vous a donné quelque part en quelques mots ce qu'était ce que devait être en fait l'essence de l'accueil. Racontez-nous brièvement cette rencontre et surtout ce que vous a dit cet homme.
Oui, c'est une rencontre tout à fait étonnante. Je me torturais l'esprit pour essayer de bâtir un petit topo sur l'accueil chrétien que je devais donner à Conques, à l'abbaye de Conques. Et puis, un sans-domicile nous demande l'hébergement pour la nuit. Apparemment, un sans-domicile chrétien, un peu particulier. Mais voilà. Et je ne sais pas pourquoi, ce qui m'a pris, tout d'un coup, je me dis, je vais aller lui demander et je vais le voir. Et je lui dis, voilà, j'ai un petit topo à faire sur l'accueil. Et toi qui, tous les jours, es accueilli à des endroits différents depuis des années, qu'est-ce que tu dirais? Comment on fait pour accueillir chrétiennement un pèlerin ou un sans-domicile? Et là, il observe un silence qui était de bon augure, un silence qui m'a paru assez long, et il me dit « Léonard, c'est pas compliqué, tu t'effaces et tu laisses Jésus accueillir. » Alors évidemment, j'ai bâti tout mon topo là-dessus.
Est-ce qu'il a donné plus de détails après ?
Non, pas plus.
Alors, qu'est-ce que vous conseilleriez à tous ceux qui ont envie de faire rentrer un petit peu de chemin dans leur vie, qui sont touchés en fait par tous ces reportages ou tous ces jeunes, voilà, des gens du monde entier qui viennent marcher sur les chemins de Saint-Jacques et qui aimeraient peut-être faire place à un peu de cette aventure dans leur vie? Comment essayer de plus accueillir, de mieux accueillir, d'être un tout petit peu hospitalier dans son quotidien? Qu'est-ce qui vous viendrait comme idée l'un et l'autre? Je ne sais pas, ce n'est pas forcément Léonard, hein, ça peut être aussi le père Jean-Régis. Père Jean-Régis, qu'est-ce que vous diriez à ces auditeurs?
Bon, je dirais que notre vie elle-même est un pèlerinage.
Ma question, c'est plus spécifiquement pour les auditeurs qui voudraient un peu élargir, on va dire, leur cœur ou qui, dans leur quotidien, voudraient faire plus de place à l'accueil ou un peu accueillir comme un Saint-Jacques. Qu'est-ce que vous leur donneriez comme conseil, comme pas à faire, comme...
Eh bien, chaque personne est unique et nous avons dans la liturgie une très belle acclamation après la préface, quand on rappelle la sainteté de Dieu, et qui est « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Et donc, je pense que toute personne peut accueillir quelqu'un avec cet arrière-fond, j'allais dire ce filigrane, « Béni soit celui ou celle qui vient au nom du Seigneur ».
Voilà, Léonard, qu'est-ce que vous rajouteriez ? Parce qu'une fois qu'on a dit ça, c'est parfois plus difficile à vivre. Je ne sais pas comment, quand vous en parlez avec Elisabeth, qu'est-ce que vous vous dites pour essayer de vous exhorter à essayer de toujours accueillir avec attention, avec délicatesse?
Ben, je crois qu'on ne se force pas à accueillir. Je pense qu'on reçoit cette grâce quotidiennement. Même si quelquefois, on peut être fatigué, peut-être en avoir un peu assez de ce défilé quasiment ininterrompu de pèlerins pendant la saison. Je crois que finalement, tout compte fait, ça se passe toujours bien. Et dès qu'on est au contact avec les pèlerins, c'est toujours quelque chose de nouveau, malgré que les questions puissent être semblables des fois. Mais c'est toujours quelque chose de nouveau et de très qui nous emplit de beaucoup de joie et de paix.
Pour finir, pour tous ceux qui voudraient se mettre sur la route, il nous reste quelques minutes. Qu'est-ce que vous leur conseilleriez ? On a l'habitude de dire que le vrai pèlerinage, c'est de partir de chez soi. Elisabeth, qu'est-ce que vous diriez à ceux qui aimeraient se lancer dans l'aventure ? Allez-y, j'imagine, ou qu'est-ce que...
Oui, bien sûr. Allez-y. Il y a toutes sortes de préparations possibles. Bon, il y a ceux qui partent très très vite. C'est impératif. Alors,
voilà, comme un peu Louis, hein, on l'a vu dans cette émission.
Voilà. Qui a pris sa décision assez vite. Alors, bien sûr, il y a des sites internet, il y a des associations jacquaires qui permettent de se préparer matériellement, bien sûr, parce qu'il y a des petites choses à savoir. Parce que quand on n'a jamais marché, marcher tout d'un coup 20 km par jour, ça demande un petit, une préparation matérielle. Mais la préparation, je dirais, spirituelle ou la préparation du cœur, c'est surtout de se dire. Je ne fais pas de projet, je ne sais pas comment ça va se passer, mais je vais accueillir ce qui m'arrive. Et garder les yeux ouverts, les oreilles ouvertes, enfin tout, le cœur ouvert pour pouvoir accueillir ce qui arrive jour après jour.
Voilà, il faut quand même dire qu'il faut un tout petit peu préparer, il y a quand même un minimum d'équipement, pharmacie et autres. Et puis il faut partir avec des sous, hein, parce que... Je sais qu'il y a parfois certains pèlerins qui partent les mains dans les poches en voulant vivre un accueil gratuit de bout en bout. Est-ce que vous pouvez dire peut-être un petit mot là-dessus, l'un ou l'autre, Léonard ?
Oui, mais de toute façon, il faut un minimum. Hein.
C'est quand même un petit budget.
Oui, mais bon, il ne s'agit pas de forcément de partir sans rien, bien que certains tentent l'aventure comme ça.
Enfin, le vrai pèlerinage, ce n'est pas forcément de partir sans le sou.
Non, ce n'est pas forcément... voilà. Mais certains peuvent être appelés à le faire, et c'est aussi une grâce, et c'est beau aussi. Voilà, tout le monde n'est pas appelé à partir sans rien et à quémander sa nourriture ou son logement. Mais pour la plupart des gens, il faut prévoir un petit budget, il faut prévoir un sac à dos, il faut prévoir des bonnes chaussures. Déjà, dès le commencement, c'est l'épreuve du sac à dos. C'est-à-dire, il ne s'agit pas d'en prendre trop, parce que dans notre monde, on a beaucoup trop en général. Enfin, certains ont beaucoup trop. Et là, il faut restreindre un petit peu. Sinon, on n'arrivera pas au bout. Plus on est chargé, plus on est lesté, moins on avance. Et donc là, c'est sans doute l'expérience d'une certaine légèreté, au bon sens du terme, pour pouvoir avancer et arriver au bout.
Voilà, partir aussi modestement. J'ai lu sur votre site internet le conseil, par exemple, c'est de ne pas prévoir de trop grosses étapes au début pour avoir le temps de se faire au chemin. Pour finir, quelques pistes, ou en tout cas deux. Donc, Le Temps de Compostelle, un chemin de signes et de traces, paru aux éditions Saint-Léger. Je l'ai cité à plusieurs reprises. Livre de Fioretti sur l'aventure que vous avez vécue ici à l'Hospitalité Saint-Jacques. Donc, vous, Léonard, Elisabeth, avec d'autres. Et puis, peut-être pouvez-vous m'aider. Ah oui, voilà, un film que vous avez fait sur l'aventure de Saint-Jacques de Compostelle, Le Temps de Compostelle, que l'on peut trouver sur Internet, letempsdecompostelle.free.fr. Merci beaucoup de nous avoir accueillis ici à Estin et merci à Pascal Fournet, délégué diocésain à l'information pour le diocèse de Rodez, de son aide. Cette émission a été réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.